Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Il y a un an, était signé à New York le traité sur le commerce des armes. 153 pays se sont mis d'accord pour que des règles rigoureuses et juridiquement contraignantes soient imposées sur les transferts d'armes internationaux afin de limiter les livraisons qui alimentent atrocités et violences. Et à ce jour, seulement 118 pays l'ont signé. L'entrée en vigueur du traité dépend maintenant de sa ratification. Il en faut 50. Le quorum n'est pas encore atteint, mais la progression est là. Il manque encore une petite dizaine de ratifications. La question de savoir si le traité entrera en vigueur d'ici à la fin de 2014 est ainsi posée. Aujourd'hui encore, quelle que soit l'impossibilité parfois d'estimer le nombre de personnes tuées du fait de la dissémination des armes classiques en Centrafrique, en Irak, en Libye, au Mali, au Soudan du Sud ou en Syrie, ce sont des millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui sont victimes de violences directes et indirectes perpétrées à l'aide de ces armes. Nos invités, l'ambassadeur Jean-Hugues Simon-Michel, chef de la délégation française à la conférence sur le traité sur le commerce des armes, bonjour.
Bonjour.
Sedi Gassama, par téléphone, depuis Dakar, directeur d'Amnesty International Sénégal, bonjour.
Bonjour.
Et Benoît Muratchol, président de l'organisation AZER, Action Sécurité Éthique Républicaine, bonjour.
Bonjour.
Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est un an après l'ouverture à la signature du traité? 50 ratifications sont nécessaires, il en manque moins d'une dizaine. Des avancées rapides et en même temps 43 pays qui ont voté l'adoption du traité sur le commerce des armes qui n'ont à ce jour donné aucune suite, essentiellement des pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Jean-Hugues Simon-Michel, où en est-on aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, 14 mois après l'adoption du traité, ça veut dire le moment où on a décidé que le texte était finalisé et qu'il serait ouvert à la signature, on a 118 signatures et parmi les 118 pays qui ont signé le traité, 40 l'ont ratifié. Alors encore une fois, il faut distinguer le moment où on adopte le traité, ce qui veut dire qu'on met un terme à la négociation et qu'on dit que le texte est finalisé. Mmh. Ça donne lieu à un premier vote sur la décision de procédure, de lancer la procédure qui va permettre aux États d'y devenir partie. Donc c'est là où on a eu ce vote avec 153 pays qui ont voté oui. Mmh. Et ensuite, les pays doivent le signer. Ça, c'est un acte national, individuel, qui ne veut pas dire que le pays est lié par le traité. Ça veut simplement dire qu'il l'a signé et qu'il s'engage à ne rien faire qui compromette l'avenir du traité, d'une certaine façon. Ça vaut surtout pour les traités bilatéraux. Mmh. Mais c'est une première étape. En fait, on devient partie à un traité en deux étapes. La première étape, c'est une partie qui n'engage en général que le gouvernement et pas le Parlement. Ça, c'est la signature. Mais ensuite, on ne devient vraiment partie à un traité qu'une fois qu'il a été ratifié. Et dans la plupart des pays, en tout cas lorsque le traité comporte des dispositions qui relèvent de la loi dans le pays concerné en vertu de ces dispositions constitutionnelles, il faut une loi autorisant la ratification. Donc c'est une procédure interne beaucoup plus longue. Et le traité ensuite entre en vigueur selon ce qu'il dispose lui-même. Et donc ce traité-là, il dit qu'il faut 50 ratifications et il entre en vigueur 3 mois. 3 mois après la 50e ratification.
Alors où est-ce qu'on en est du calendrier?
Et une fois que le traité est entré en vigueur, on ne peut plus signer. On ne peut plus que adhérer.
Ça n'est pas ce qui veut dire.
Ça n'est pas pareil parce que ça veut dire qu'on adhère directement. Dès qu'on adhère, ça se fait en une seule fois, donc il faut faire voter sa loi par le Parlement avant et on devient parti directement.
Et oui, Benoît Muratchol.
Oui, je voudrais dire quand même que sur le fait de signer le traité, il y a quand même un engagement des États sur les objectifs du traité. Les objectifs qui sont globalement donc la régulation des armes classiques, des transferts d'armes classiques dans le monde et la lutte contre le trafic illicite. Et la ratification engage quand même les États dans le respect du traité lui-même. Et bien sûr, quand le traité est entré en vigueur, il y a un élément qui est plus fort. Mais de la part de nos juristes AZER, nous, on considère un petit peu...
Benoît a tout à fait raison. C'est vrai que ce qui transforme le traité en une sorte de loi qui fabrique du droit, c'est la ratification. Mais ce qui est important d'un point de vue politique, c'est la signature. Mmh. Parce que c'est la signature qui donne le signal politique qu'un État soutient le traité.
Je me tourne vers Sedi Gassama quelques instants. Sedi Gassama, alors en ce qui concerne l'Afrique, qui a été très présente hein, dans l'élaboration du traité, donc signé il y a un an. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, tant des signatures? Jean-Yves Simon-Michel nous a bien fait le distinguo entre signature et ratification. Où est-ce qu'on en est?
C'est plutôt décevant en Afrique. Vu l'engagement que les États africains avaient mis dans la négociation de ce traité, aujourd'hui on en est à peu près une quarantaine de signatures et à quelques 4 ratifications à ma connaissance, le dernier étant le Sénégal dont le Parlement vient de ratifier une semaine le traité qui n'a pas encore déposé l'instrument de ratification. Donc une très grande déception, mais il y a beaucoup d'initiatives en Afrique, au sein de la société civile, au sein de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, pour amener les États à ratifier rapidement. Et je crois que dans les prochains mois, en tout cas d'ici novembre, très certainement, on aura un gros groupe d'États africains qui vont adhérer au traité.
Alors je me tourne vers vous, Jean-Hugues Simon-Michel, sur un commentaire. Donc le Sénégal qui vient de ratifier, ratification qui vient s'ajouter à celle du Mali, du Nigeria.
Alors moi, je suis moins pessimiste que Seydi concernant l'Afrique. Parce qu'il y a malgré tout un grand nombre de pays africains qui ont signé et on est encore dans une phase où l'enjeu c'est la signature. Et il y a beaucoup d'États africains qui ont signé. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait encore plus naturellement et qu'on arrive à une quasi-universalité du traité en Afrique. Il y a très peu d'États africains qui ont voté contre l'adoption du traité le 2 avril 2013 à New York. Mais l'enjeu, ce serait vraiment d'en avoir le plus possible à bord. C'est vrai qu'il y en a encore peu qui ont ratifié, mais ça prend souvent du temps. Le premier à ratifier a été le Nigeria, parce que c'est un pays qui a des ambitions régionales. Il a voulu donner un signal politique. Le deuxième a aussi voulu donner un signal politique. Et on voit bien le sens de sa ratification, c'est le Mali.
Et le troisième, le Burkina Faso. Et je pense que, alors, je suis entre les deux, entre Seydi et puis Jean-Hugues Simon-Michel, parce que je pense qu'il y a quand même, pour l'Afrique, avec le travail qui a été fourni, l'importance que ce travail a donné pour le positionnement de pays aussi importants que la Chine, je pense l'Inde, en tout cas à venir, les États-Unis, l'Afrique est un petit peu en deçà de ce qu'elle a donné pendant les négociations. Et on peut le comprendre d'ailleurs, parce que quand on était à New York, on était avec des délégués avec lesquels on travaillait depuis plusieurs années et avec lesquels il y a eu tout d'un coup une vraie mobilisation, une vraie prise de conscience. Quand il faut retourner au capital, c'est un autre type de mobilisation pour les sociétés civiles. Il y a bien sûr Amnesty International qui est assez présente en Afrique, mais qui est pas dans tous les pays. Et on se rend compte que là, il y a une difficulté plus grande de mobiliser les administrations. Et puis, Seydi l'expliquera sans doute aussi, les parlements. Je sais que, et je félicite Seydi parce que le parlement sénégalais a voté la ratification du traité. Mais il y a quelque chose comme ça qui n'est pas encore, il n'y a pas encore une maturité dans cette dynamique-là.
Alors, on va revenir sur le calendrier un tout petit peu plus tard, mais Seydi, je profite que la ligne soit bonne avec vous. J'aimerais revenir sur votre déception. Vous êtes vous-même africain, il y a des attentes, et donc, voilà, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu plus à fond votre sentiment un an après l'adoption de ce traité sur le commerce des armes à New York.
Donc, comme je disais, il y a un très grand nombre d'États africains qui étaient très, très engagés dans ce processus depuis le début. Je pense aux États d'Afrique de l'Ouest, comme le Libéria, qui était très affecté. En Afrique de l'Est, si vous prenez un pays comme le Kenya, qui est quand même un leader et un moteur dans cette région, qui était dans ce qu'on appelait les causes, les pays qui draftaient la proposition de traité, le Kenya n'a toujours pas signé ce traité. Et cela est extrêmement décevant pour nous. Parce qu'une signature du Kenya aurait entraîné celle et éventuellement ratification de beaucoup d'autres pays en Afrique de l'Est. Donc, on a des pays qui, pendant les 20 dernières années, ont été les principaux victimes de la circulation des armes dans le monde et qui, de notre côté, traînent les pieds pour ratifier le traité. Donc, ce sera la grande affaire. Mais comme j'ai dit, il y a énormément de mouvements au sein de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. La commission de la CEDEAO est en train d'impulser un processus de ratification au niveau régional. Et je crois qu'en Afrique de l'Ouest, dans les prochains mois, on va certainement voir une bonne dizaine d'autres pays adhérer au traité, ce qui permettrait justement d'aller vite vers son entrée en vigueur.
Sédi Gassama, quelle analyse doit-on faire du fait que voilà, certains pays traînent aujourd'hui des pieds par rapport à cette signature du traité et ratification?
En Afrique, il y a, comme qui dirait, une très grande méfiance par rapport à la ratification. Beaucoup d'États en Afrique, après ce qui s'est produit avec la Cour pénale internationale, pensent qu'il n'y a plus raison de se précipiter à ratifier des traités, et finalement, le continent devient la principale victime de ces ratifications. Donc beaucoup de pays attendent de voir comment ça va bouger dans d'autres régions du monde. Évidemment, en Europe, ça a beaucoup bougé, mais les gens regardent beaucoup du côté de l'Asie, les gens regardent beaucoup du côté de l'Amérique latine. Et je crois qu'il faut que ce mouvement de ratification avance dans d'autres régions pour que les forces réticentes en Afrique puissent justement ne plus entraver le processus de ratification.
Jean-Luc Simon-Michel, je me tourne vers vous. C'est important ce que vient de dire Sédi. On sent que chacun observe l'autre et que, en fonction de, voilà. Donc c'est souvent des décisions qui se font en creux ou par défaut.
C'est vrai, et il y a des régions du monde où on hésite encore plus qu'en Afrique. C'est pour ça qu'il est important que l'Afrique montre un peu la voie. L'Europe, naturellement, a montré la voie. L'Amérique latine, il y a peu d'hésitation malgré tout. L'Amérique latine aussi va dans le bon sens. Mmh. Il faut que l'Afrique aille un peu plus vite. Mais là où il y a le plus d'hésitation, c'est dans l'Asie, je dirais, du Proche-Orient jusqu'à l'Extrême-Orient.
Ouais. Benoît Mirachel.
Oui, ce qui a apporté le traité aussi, c'est les premiers pas concrets dans la multilatérisation des relations internationales. Et de ce point de vue-là, l'Afrique a un rôle encore plus important à jouer. On a vu que, donc, je disais tout à l'heure, la Chine a changé sa position sur le traité grâce à l'Afrique, grâce au travail des Africains. L'idéal, ce serait de voir les Africains continuer le travail qu'ils ont fait pendant toutes ces années à New York, à l'ONU, et d'aller rencontrer les pays asiatiques, parce que ce sont eux qui, aujourd'hui, je crois, ont les meilleurs arguments pour permettre aux États Asie, alors Moyen-Orient aussi, je pense, mais ça c'est peut-être encore un peu tôt, mais en tout cas les États d'Asie, pour leur faire comprendre la nécessité de ce traité, parce que tout le monde y a intérêt, les investissements, les ressources naturelles sont aujourd'hui et pour les 30, 40, 50 prochaines années, elles sont en Afrique, et on sait que l'Inde, la Chine ont des intérêts immenses de ce côté-là.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique.
Alors, Sédi Gassama, je me tourne vers vous. Je vais un peu plus loin dans ce débat sur la thématique qui veut que les pays africains soient assez, voilà, freinent un peu, ou en tout cas ne se précipitent pas pour la signature et la ratification de ce traité. On sait que certaines grandes puissances ont des intérêts économiques très forts en Afrique. Je ne sais pas si on les cite ou pas. En tout cas, c'est suffisamment clair avec quelques noms que Benoît Mirachel vient d'évoquer. Est-ce qu'on peut imaginer des pressions sur les gouvernements en Afrique pour voilà, que ce traité ne soit pas signé, voire ratifié?
Je ne pense pas qu'il y ait quelques pays qui puissent faire pression sur l'Afrique pour ne pas signer. Bien au contraire, beaucoup d'États africains, comme j'ai dit, bien que réticents en ce moment, vont certainement le ratifier massivement avant la fin de l'année. Le problème en Afrique, c'est que depuis que le continent a très majoritairement ratifié le statut de la Cour pénale internationale et que certains chefs d'État considèrent aujourd'hui que sa ratification sont à l'origine de beaucoup de problèmes des chefs d'État, beaucoup d'États sont devenus très réticents, traînent les pieds avant de ratifier. Il n'est plus question que l'Afrique soit le continent qui ratifie tous les traités, alors que, pour ce traité en tout cas, les principaux producteurs d'armes, les États-Unis, la Russie, ne ratifieront très certainement jamais ce traité. Donc il y a beaucoup de questionnements de ce genre dans les réseaux sociaux. Pourquoi on ratifie? Est-ce que les États-Unis vont ratifier? La Russie va-t-elle ratifier? La Chine, on est très optimiste qu'elle va certainement signer le traité. Que même si elle ne ratifie pas dans l'immédiat, la Chine va être obligée de conformer sa politique d'exportation d'armes au traité, parce que simplement elle a beaucoup d'intérêts économiques en Afrique. Et l'Afrique est un très grand marché également pour les entreprises chinoises, donc il n'y a aucune crainte par rapport à la Chine, mais les États-Unis et la Russie, qui sont évidemment les principaux producteurs, ne vont très certainement pas ratifier je dirais, dans le moins terme, ce traité. Et beaucoup d'États se disent, pourquoi nous, qui ne produisons pratiquement pas d'armes, allons ratifier un traité, alors que les gros producteurs, eux, ne le ratifieront certainement pas. Donc il y a ces questionnements qui se posent en Afrique, et je crois que les pays de l'Union européenne ont montré la voie. C'est également des pays qui exportent beaucoup d'armes en Afrique, et très certainement, dans des forums tels que la francophonie ou le Commonwealth, qui sont des forums où les pays de l'Union européenne et les pays africains se retrouvent, on peut également mener ce travail-là, au niveau des secrétariats de ces organisations, pour encourager les États à signer et ratifier les traités. Cela a été fait, hein. Si vous prenez certains traités comme le protocole à la Convention contre la torture, la francophonie a fait un travail énorme pour le faire ratifier par les États africains. Malheureusement pour ce traité, cela ne semble pas être encore dans l'agenda de la francophonie.
Benoît Muratchal, un commentaire sur ce que vient de dire Sédhi Gassama?
Je trouve que c'est extrêmement important parce que le signe qui a été donné aux pays africains sur la vision de l'universalité des droits de l'homme, notamment avec le traitement de la CPI, où ce sont quasiment ou uniquement des chefs de guerre ou des chefs d'État africains qui sont traduits en justice à La Haye, c'est un signal absolument terrifiant. Je ne sais pas si George Bush ne mérite pas lui aussi de passer au tribunal de La Haye. Donc il y a, et c'est ce que traité aussi renvoie, c'est que il y a aujourd'hui pour la communauté internationale une réinterrogation nécessaire en disant quelles sont aujourd'hui les priorités. En République démocratique du Congo, je parle souvent de ce pays, c'est plus de 5 millions de morts. Hein, eh bien, qu'est-ce qu'a fait la communauté internationale à cette époque-là? La Grande-Bretagne et les États-Unis ont continué de fournir des armes au Rwanda, qui était largement impliqué dans les graves violations des droits de l'homme, crimes de guerre, crimes contre l'humanité en République démocratique. Et ça, les États africains regardent ces signaux ou cette absence de signaux, et je comprends leurs craintes. Donc, c'est une vraie question à la communauté internationale qui est posée sur cette universalité des droits de l'homme.
Alors, Sédhi Gassama parlait des pays européens qui ont ratifié le traité. Il y a la France, bien sûr, Jean-Luc Simon-Michel, et puis il y a l'Allemagne également, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie.
Il y a 21 États de l'Union européenne qui ont ratifié. J'aurais dû commencer par dire que tous les États de l'Union européenne, sans exception, ont signé le traité, et il y en a déjà 21 qui l'ont ratifié. Donc l'Europe est véritablement en pointe dans ce mouvement de ratification avec d'autres régions du monde, notamment l'Amérique centrale et l'Amérique latine. C'est pourquoi il est important que l'Afrique soit avec nous. Et nous essayons de les convaincre. Ça a été un des sujets abordés par le président Hollande lors du sommet de l'Élysée en décembre dernier avec ses homologues africains. Mais je voudrais quand même dire à Sédhi que Sédhi pose de très bonnes questions et soulève des inquiétudes naturellement que nous avons tous, parce que nous souhaitons tous que ce traité soit un succès. Mais on n'en est pas au stade où il faudrait être déçu, parce que je crois qu'il y a un calendrier et on est encore à une phase trop préliminaire pour pouvoir dire qu'on est déçu. On est dans une phase on est encore à peu près 6 mois avant l'entrée en vigueur, donc on est encore dans la phase où on attend qu'un maximum de pays signent. Et tous ces pays qui hésitent, ils ont la possibilité de venir en deux fois. Une première fois qui n'engage pas trop en signant, et puis après, ils pourront prendre leur temps pour ratifier. Et ça n'est possible que jusqu'à la date butoir de l'entrée en vigueur. Donc cette démarche des pays qui pourraient avoir des hésitations, qui vont signer, et ensuite ils prendront un certain nombre d'années pour ratifier, c'est possible uniquement avant l'entrée en vigueur. Après l'entrée en vigueur, on ne peut plus que adhérer, ça veut dire que vous êtes lié complètement, ça devient du droit immédiatement. Et donc tous ces pays, il faut essayer de les avoir à bord pour des raisons de symboles politiques. Et on a encore presque 6 mois pour ça. Donc il est quand même un petit peu tôt pour dire qu'on est déçu. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est envoyer les bons signaux pour que ces pays signent, y compris en Asie, y compris naturellement de très grands pays ou de très grands exportateurs d'armement comme la Chine. Alors là, il faut peut-être revenir un peu sur le calendrier.
Oui, mais je propose qu'on le fasse dans la deuxième partie de l'émission, monsieur l'ambassadeur, si vous le voulez bien. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Jean-Hugues, Simon-Michel, Sédhi Gassama et Benoît Muratchal dans quelques instants.